Chapitre 10. Dragon.
Maintenant ? Je suppose que oui. Il faut que ce soit un ordre, colonel Graff. Une armée ne se déplace pas parce que son commandant lui dit « Je crois qu'il est temps d'attaquer ». Je ne suis pas commandant. J'enseigne à de petits enfants. Colonel, j'admets que vous m'avez eu sur le dos. Je reconnais avoir été un furoncle sur votre cul. Mais ça a marché. Tout a marché exactement comme vous le vouliez. Ces dernières semaines, Ender est même heureux. Satisfait. Il se débrouille bien. Son esprit est tranchant. Il joue à merveille. Aussi jeune soit-il, nous n'avons jamais eu de garçon mieux préparé à prendre un commandement. D'ordinaire, ils y arrivent à 11 ans, mais à 9 ans et demi, il est déjà un soldat de haut vol. Eh bien, pour tout vous dire, ça fait quelques minutes que je me demande quel genre d'homme s'amuserait à soigner un enfant blessé dans le seul but de le renvoyer au combat. Un petit dilemme moral personnel. N'en tenez pas compte, je vous en prie. J'étais fatigué. Sauvez le monde, vous vous souvenez ? Convoquez-le. Nous faisons ce qui doit être fait, colonel Graff. Allons, Anderson. Vous mourrez d'envie de voir comment il va se débrouiller face à tous ces jeux truqués que je vous ai demandé de mettre au point. C'est plutôt petit de « eh bien ». Va pour la petitesse. Allons, Major. Nous sommes tous les deux la lie de la Terre. Moi aussi, je meurs d'envie de voir comment il va s'en sortir avec eux. Après tout, nos vies dépendent de son excellence. Nap. Vous n'allez pas commencer à utiliser l'argot de ces gosses, non ? Convoquez-le, Major. Je vais télécharger les tableaux de service dans ses dossiers et lui donner son système de sécurité. Ce que nous lui faisons subir n'est pas tout noir, vous savez. Il va retrouver son intimité.
Son isolement, vous voulez dire ?
La solitude du pouvoir. Allez le chercher.
Oui, colonel. Nous serons là dans un quart d'heure.
Au revoir. Oui, colonel. Oui, colonel. J'espère que tu t'es bien amusé, Ender. J'espère que tu as bien profité de ton pain blanc. Parce que tu n'auras peut-être plus jamais l'occasion d'en manger. Bienvenue, mon petit. Ton vieil oncle Graff a des projets pour toi.
Ender avait compris ce qu'il attendait depuis l'instant où on l'avait fait entrer. Tout le monde se figurait qu'il allait rapidement être nommé commandant. Peut-être pas si vite, mais il occupait presque sans interruption la tête des classements depuis 3 ans. Personne ne semblait pouvoir l'en déloger, et ses entraînements du soir étaient devenus l'activité la plus prestigieuse de l'école. Certains ne comprenaient même pas pourquoi les professeurs avaient temporisé si longtemps. Il se demanda quelle armée ils allaient lui confier. 3 commandants allaient bientôt obtenir leur diplôme, Petra y compris. Mais on ne pouvait guère s'attendre à ce qu'ils fassent des miracles avec l'armée du Phénix. Personne n'était jamais parvenu à diriger l'armée qu'il accueillait avant sa promotion. Anderson commença par le conduire dans ses nouveaux quartiers. Ce qui réglait la question. Seuls les commandants bénéficiaient de pièces privées. Puis, il l'emmena chercher de nouveaux uniformes ainsi qu'une combinaison flash. Ender examina les formulaires en quête du nom de son armée. Le dragon. Il n'existait aucune armée du dragon.
« Je n'ai jamais entendu parler d'une armée du dragon, » commença Ender.
« C'est parce que ça fait 4 ans qu'elle n'existe plus. Nous avons abandonné le nom à cause des superstitions qui s'étaient développées autour. Dans toute l'histoire de l'école, aucune armée du dragon n'a jamais gagné plus d'une bataille sur 3. Ça a dû finir par se transformer en plaisanterie. »
« Alors pourquoi la réactiver maintenant ?»«
Nous avions un stock d'uniformes à épuiser. »
Graff était assis à son bureau, l'air plus gras et plus las que la dernière fois qu'Ender l'avait vu. Il tendit au garçon son crochet, la petite boîte qui permettait aux commandants de se déplacer à leur guise dans la salle de combat pendant les exercices. Certains disaient qu'il fonctionnait par magnétisme, d'autres par gravité.
Ender aurait si souvent aimé en avoir un pendant ses sessions du soir, plutôt que d'avoir à rebondir du mur à l'autre pour aller là où il voulait. Ils avaient attendu qu'il sache parfaitement manœuvrer sans pour autant lui en donner un.
« Il ne fonctionne, lui indiqua Anderson, que pendant les sessions réglementairement programmées. »
Vu qu'Ender avait déjà prévu d'effectuer des exercices additionnels, cela signifiait que le crochet ne serait utilisable qu'une partie du temps. Ça expliquait aussi pourquoi de si nombreux commandants ne faisaient jamais d'entraînement supplémentaire. Ils se reposaient sur le crochet pour asseoir leur autorité, leur pouvoir sur les autres garçons. Ils ne risquaient donc pas de vouloir travailler sans.
C'est un avantage que j'aurai sur certains de mes ennemis.
Le discours officiel de Graff lui sembla forcé, mille fois répété. Ce ne fut qu'à la fin qu'il parut s'intéresser à ses propres paroles.
« Nous essayons quelque chose d'inhabituel avec l'armée du dragon. J'espère que tu n'y vois pas d'inconvénient. Nous avons constitué une nouvelle armée en promouvant en avance l'équivalent d'un groupe entier de bleus et en retardant la nomination d'un certain nombre d'autres élèves. Je pense que tu seras satisfait de la qualité de tes soldats. J'espère que tu le seras, parce que nous t'interdisons d'en transférer un seul. »
Pas d'échange ?
S'enquit Ender. C'était toujours ainsi que les commandants se débarrassaient de leurs points faibles.
Aucun. Tu comprends, ça fait maintenant 3 ans que tu diriges tes séances d'entraînement supplémentaires. Tu as des partisans. Beaucoup de bons soldats ne manqueraient pas d'exercer des pressions déloyales sur leurs commandants pour qu'ils les transfèrent dans ton armée. Nous t'en avons confié une susceptible de devenir compétitive avec le temps. Nous n'avons pas l'intention de te laisser dominer déloyalement.
Et si j'ai un soldat avec qui je n'arrive tout simplement pas à m'entendre ?
Débrouille-toi pour que ça colle.
Graff ferma les yeux. Anderson se leva, signe que l'entretien était terminé. On assigna au dragon les couleurs gris, orange, gris. Ender changea de combinaison, puis suivit les rubans de lumière jusqu'au dortoir accueillant son armée. Ses soldats, déjà arrivés, grouillaient autour de l'entrée. Ender prit immédiatement la situation en main.
Les couchages seront attribués par ordre d'ancienneté. Les vétérans au fond du dortoir, les plus jeunes devant.
C'était l'inverse du schéma habituel. Ender le savait. Tout comme il savait qu'il n'avait pas l'intention d'agir comme nombre de commandants, qui ne voyaient jamais les plus jeunes sous prétexte qu'ils occupaient toujours le fond. Il fit les 100 pas dans l'allée centrale le temps qu'ils se rangent dans l'ordre de leur date d'arrivée. Une 30aine de ces soldats étaient des bleus, en provenance directe de leur groupe d'origine, sans la moindre expérience du combat. Certains semblaient même trop jeunes pour se trouver là. Les plus proches de la porte étaient pitoyablement petits. Ce qui rappela à Ender la première impression qu'il avait dû faire à Bonzo Madrid. Bonzo, cependant, n'avait eu à gérer qu'un seul soldat aussi juvénile. Pas un des vétérans n'appartenait au groupe d'entraînement d'élite d'Ender. Aucun n'avait été chef de cohorte. Aucun, pour tout dire, n'était plus vieux que lui. Ce qui signifiait que même ces vétérans n'avaient pas plus de 18 mois d'expérience. Certains d'entre eux lui étaient même inconnus, tant ils avaient échoué à se faire remarquer. Ils le reconnurent bien évidemment. Il s'agissait du soldat le plus célèbre de l'école. Et certains d'entre eux, ils n'avaient aucun mal à le voir, gardaient cela en travers de la gorge.
Au moins, ils m'ont fait une faveur. Aucun de mes hommes n'est plus vieux que moi.
Dès que chacun eut trouvé une place, Ender leur ordonna de passer leur combinaison flash et de le suivre à l'entraînement.
« Nous sommes sur le programme du matin. Entraînement juste après le petit déjeuner. En principe, vous avez 1 heure de libre entre les deux. Nous aviserons quand j'aurai vu ce que vous valez. »
3 minutes plus tard, bien que beaucoup d'entre eux ne soient pas encore en tenue, il les sommait de sortir de la pièce.
« Mais je suis à poil !» s'écria un garçon. « Habille-toi plus vite la prochaine fois. 3 minutes entre le premier appel et l'arrivée à la porte. Ça vaut pour cette semaine. La semaine prochaine, ce sera 2 minutes. Go !»
Le reste de l'école ne tarderait pas à se gausser de l'armée du dragon, dont les soldats étaient assez bêtes pour partir à l'entraînement sans même avoir fini de s'habiller. 5 garçons encore complètement nus couraient dans les couloirs en traînant leurs combinaisons derrière eux. Et rares étaient ceux parmi leurs camarades à être intégralement vêtus. Ils ne manquèrent pas d'attirer l'attention en passant devant les portes ouvertes des salles de classe. Aucun d'entre eux ne serait plus en retard s'ils pouvaient l'éviter. Ender leur fit accomplir de rapides va-et-vient dans les couloirs qui menaient à la salle de combat, histoire de les faire transpirer un peu pendant que les derniers finissaient de s'habiller. Puis il les conduisit à la porte supérieure, celle qui s'ouvrait au milieu de la salle, exactement comme pour une véritable partie. Il leur ordonna alors de bondir jusqu'aux poignées du plafond et de les utiliser pour se projeter dans les airs.
« Rassemblez-vous contre le mur opposé, » fit-il, « comme si vous attaquiez l'entrée ennemie. »
Ils dévoilèrent leurs limites au moment de sauter par groupe de 4 à travers la porte. Presque aucun d'entre eux ne savait comment faire pour décrire une trajectoire directe jusqu'à l'objectif. Et quand ils atteignaient le mur opposé, rares étaient ceux parmi les nouveaux à avoir la moindre idée de la manière de procéder pour s'y accrocher, ou même pour maîtriser leur rebond. Le dernier dehors était un vrai gosse, trop, à l'évidence. Ender ne voyait pas comment il allait pouvoir saisir les poignées du plafond.
« Tu peux utiliser une poignée latérale si tu veux, » lui dit-il. « Allez vous faire foutre !» fit le garçon.
Qui prit son élan pour sauter, toucha la poignée du bout des doigts, puis passant en trombe par la porte sans contrôler le moins du monde sa trajectoire, se mettant aussitôt à tourner sur lui-même dans 3 directions à la fois. Ender peina à choisir entre apprécier le caractère sans concession de ce gosse et lui reprocher son attitude insubordonnée. Ils parvinrent finalement à s'aligner le long du mur. Ender constata alors que tous, sans exception, avaient gardé la tête orientée vers ce qui avait été le haut dans le couloir. Aussi empoigna-t-il délibérément ce qu'il considérait comme étant le sol pour s'y suspendre à l'envers.
« Pourquoi êtes-vous la tête en bas, soldat ?»
Certains d'entre eux commencèrent aussitôt à se tourner de l'autre côté.
« Votre attention !»
Ils s'immobilisèrent.
« Je vous ai demandé pourquoi vous aviez la tête en bas. »
Personne ne répondit. Ils ne comprenaient pas ce qu'il attendait d'eux.
« J'ai demandé pourquoi vous aviez tous les pieds en l'air et la tête dirigée vers le sol. »
L'un d'eux se décida finalement à prendre la parole.
« Commandant, c'était la direction dans laquelle nous étions en franchissant la porte. Et c'est supposé avoir une importance quelconque ? Quelle importance ? Peuvent bien avoir les conditions de pesanteur dans le couloir. Nous allons nous battre là-bas? Y a-t-il la moindre pesanteur ici? Non, commandant. Non, commandant. À partir de maintenant, vous allez oublier la pesanteur avant de franchir cette porte. La pesanteur fait partie du passé. Vous l'effacez de vos esprits. Compris? Peu importe la pesanteur quand vous arrivez à la porte. Rappelez-vous que l'entrée de l'ennemi se trouve en bas. Vos pieds sont tournés dans sa direction. Le haut se situe du côté de la vôtre. Le nord de celui-ci, le sud de celui-là, l'est par ici, l'ouest, de quel côté ?
Ils le lui indiquèrent.
Ça ne m'étonne pas. Vous ne maîtrisez qu'un seul processus, l'élimination, et pour l'unique raison que vous pouvez le mettre en pratique aux toilettes. C'était quoi ce cirque que j'ai vu là-bas ? Vous appelez ça un alignement ? Vous appelez ça voler ? Bon, que tout le monde aille se mettre en rang au plafond, tout de suite. Go !
Comme ils s'y attendaient, une bonne partie d'entre eux s'élança instinctivement non pas en direction du mur qui accueillait la porte, mais vers celui qu'il avait appelé nord, l'équivalent du haut quand ils se trouvaient dans le couloir. Ils eurent au fait de comprendre leur erreur, bien sûr, mais trop tard. Pour y remédier, il leur fallait temporiser le temps d'avoir rebondi sur la paroi nord. Pendant ce temps, Ender les regroupait mentalement selon leur aptitude à apprendre plus ou moins vite. Le gosse le plus jeune, celui qui avait franchi la porte en dernier, fut le premier à atteindre le bon mur, auquel il s'accrocha avec adresse. On avait eu raison de le promouvoir. Il allait bien se débrouiller. C'était également un petit rebelle effronté, qui n'avait sans doute pas digéré le fait d'avoir fait partie de ceux qu'Ender avait fait arpenter les couloirs dans le plus simple appareil.
Toi ?
Fit Wiggin en pointant le doigt sur le petit. Dans quelle direction se trouve le bas ?
Celle de la porte ennemie.
Une réponse aussi prompte que renfrognée. Manière de dire
« D'accord, d'accord. Passons aux choses sérieuses maintenant. »
« Ton nom, gamin ?»«
Bean, commandant. »
« À cause de ta taille ou de ta cervelle ?» Les autres garçons pouffèrent discrètement.
« Eh bien, Bean, tu as l'esprit vif. Bon, écoute-moi parce que c'est important. Personne ne peut franchir cette porte sans avoir de bonnes chances d'être touché. Autrefois, on avait 10, voire 20 secondes avant même d'avoir à bouger. Désormais, si on ne s'est pas élancé par la porte au moment où l'ennemi effectue sa sortie, on finit congelé. Et qu'est-ce qui se passe quand on est congelé ?
On ne peut plus bouger, dit un des garçons.
C'est ce que congelé signifie, fit Ender.
Mais qu'est-ce qui vous arrive ?
Ce fut Bean, pas intimidé le moins du monde, qui répondit intelligemment.
On continue dans notre direction initiale, à la vitesse à laquelle on se déplaçait au moment d'être flashé.
C'est exact. Vous cinq là-bas, ceux du bout, go !
Les garçons s'entre-regardèrent, interdits. Ender les flasha l'un après l'autre.
Les cinq suivants, go !
Ils s'exécutèrent. Ender les congela eux aussi, mais ils poursuivirent leur course en direction des parois. Les cinq premiers, cependant, dérivaient sans but à proximité du groupe principal.
Non mais regardez-moi ces soi-disant soldats ! Leur commandant leur ordonne de bouger, et regardez-les maintenant ! Non seulement ils sont congelés, mais ils le sont juste ici, en plein dans la trajectoire de leurs camarades. Alors que ceux qui ont suivi les ordres se retrouvent là-bas à gêner la progression de l'ennemi en bloquant son champ de vision. Je parie qu'il doit y en avoir à peu près 5 parmi vous à l'avoir compris. Et nul doute que Bean en fait partie. Exact, Bean ?
Il commença par ne rien répondre. Ender le fixa jusqu'à ce qu'il dise
« Exact, commandant. Et qu'est-ce que tu en conclus ?»«
Quand on nous ordonne de bouger, on se dépêche de le faire, pour rebondir au loin, au lieu de parasiter les manœuvres de sa propre armée si jamais on se fait congeler. »«
Excellent. J'ai au moins un soldat capable de comprendre ce que je dis. »
Ender pouvait voir le ressentiment grandir dans les rangs, à la façon dont le reste des soldats se balançaient d'un pied sur l'autre, dont ils se regardaient, dont ils évitaient de poser les yeux sur Bean.
Pourquoi est-ce que je fais ça ? Où est le rapport entre le fait d'être un bon commandant et celui de faire d'un garçon la cible de ses camarades ? Sous prétexte qu'on l'a fait avec moi, je devrais forcément le reproduire avec lui.
Ender aurait voulu ravaler les sarcasmes dont il avait gratifié le garçon. Il aurait voulu dire aux autres que ce gosse avait besoin plus que quiconque de leur aide et de leur amitié. Mais bien sûr, il ne pouvait rien faire de tel. Pas le premier jour. Le premier jour, même ses erreurs devaient avoir l'air de faire partie prenante d'un plan brillant. Ender s'accrocha près de la paroi, puis isola un des garçons.
« Tiens-toi droit !»
Il le fit pivoter de manière à ce que ses pieds pointent en direction des autres. Comme le gosse continuait de bouger, il le flasha, provoquant l'hilarité générale.
« Quelle partie de son corps peux-tu toucher ? »
demanda-t-il à un garçon positionné directement sous les pieds du soldat congelé.
« Guère plus que ses pieds ?»
Ender se tourna vers son voisin.
« Et toi ?»«
Je vois son corps !»«
Et toi ?»
Un garçon un peu à l'écart répondit
« En entier !»«
Les pieds ne sont pas assez gros pour offrir beaucoup de protection. »
Après avoir repoussé le soldat congelé, Ender replia les jambes sous lui, comme s'il s'agenouillait dans les airs, et les flasha. Le bas de sa combinaison se rigidifia aussitôt dans cette position. Ender se contorsionna de manière à pouvoir se placer au-dessus des autres.
« Et là, vous voyez quoi ?»«
Pas grand-chose. »
Il fourra son pistolet entre ses jambes.
« Moi, si !»
dit-il tout en congelant les garçons qui se trouvaient directement en dessous de lui.
« Arrêtez-moi !» leur hurla-t-il. « Essayez de me flasher !»
Ils y parvinrent en fin de compte, mais pas avant qu'il n'ait flashé plus d'un tiers de ses adversaires. Il appuya sur son crochet pour se décongeler, ainsi que tous les autres.
« Bon, » fit-il.
« Dans quelle direction se trouve la porte de l'ennemi ?»«
En bas !»«
Et quelle est notre position d'attaque ?»
Si quelques-uns commencèrent à répondre verbalement, Bean s'écarta quant à lui de la paroi, jambes repliées, et fila droit sur le mur opposé en tirant tout du long entre ses cuisses.
Ender eut un instant envie de lui hurler dessus, de le punir, mais il finit par rejeter cette impulsion mesquine.
Pourquoi ce gosse devrait-il essuyer ma colère?
Bean est-il seul à savoir comment faire?
L'armée tout entière s'élança aussitôt en direction du mur opposé, agenouillée dans les airs, tirant entre leurs jambes en hurlant à plein poumon.
Un de ces jours, se dit Ender, ce sera peut-être exactement la stratégie dont j'aurai besoin. 40 garçons s'égousillant dans un assaut de la dernière chance.
Lorsque l'intégralité des troupes eut atteint l'autre côté, il leur cria de tous l'attaquer en même temps.
« Oui, pas mal. Ils m'ont confié une armée sans entraînement, sans le moindre vétéran remarquable. Mais au moins, ce n'est pas un ramassis d'imbéciles. Je vais pouvoir en faire quelque chose. »
Quand ils se furent de nouveau rassemblés, euphoriques, Ender commença à les faire vraiment travailler. Il leur fit congeler leurs jambes en position agenouillée.
« Bon. À quoi servent vos jambes au combat ?»«
À rien, »
répondirent certains garçons.
« Bean n'est pas de votre avis. »«
C'est la meilleure façon de s'écarter des murs. »«
Exact, » fit Ender.
Les autres se mirent à grommeler qu'il s'agissait d'un mouvement, pas d'une manœuvre de combat.
« Il n'y a pas de combat sans mouvement, » ajouta Ender.
Ils se turent, haïssant Bean un peu plus encore.
« Bon, est-ce qu'on peut s'écarter d'un mur avec les jambes congelées ?»
Personne n'osa répondre de peur de se tromper.
« Bean ?»
s'enquit Ender.
« Je n'ai jamais essayé, mais peut-être qu'en faisant face à la paroi et en se pliant en deux.
Vrai, mais faux.
Regardez-moi.
Mon dos touche le mur, mes jambes sont congelées. Comme je suis agenouillé, mes pieds ne touchent pas la paroi.
Quand on s'élance, en général, il faut pousser vers le bas afin d'étirer le corps comme un haricot.
Exact, Bean ?
Rire général.
Mais avec les jambes congelées, j'emploie à peu près la même force en poussant de haut en bas avec les hanches et les cuisses. Sauf que ça a pour effet de tirer mes épaules et mes pieds en arrière et de pousser mes hanches dans la direction opposée. Et mon corps est tendu quand je me détache de la paroi. Rien ne traîne derrière moi. Regardez ça.
Ender bascula les hanches en avant, ce qui le propulsa du mur. Un instant plus tard, il rectifiait sa position pour se retrouver à genoux, les jambes vers le bas, filant vers la paroi opposée. Il atterrit sur les genoux, se retourna sur le dos, puis s'élança dans une autre direction.
« Tirez-moi dessus !»
leur hurla-t-il. Puis il se mit à tournoyer dans le vide selon une trajectoire approximativement parallèle aux soldats alignés le long du mur d'en face. Sa giration les empêchait de maintenir un rayon continu sur lui. Après avoir décongelé sa combinaison, il utilisa son crochet pour les rejoindre.
C'est ce à quoi nous allons œuvrer aujourd'hui pendant la première demi-heure. Faire travailler des muscles dont vous ignorez l'existence. Apprendre à utiliser vos jambes comme un bouclier. À contrôler vos mouvements de manière à pouvoir effectuer un tel retournement. Ce genre de manœuvre n'a guère d'utilité à proximité d'un adversaire, mais ça l'empêche de vous blesser à grande distance. Le rayon doit rester concentré sur le même endroit pendant quelques instants, et ça ne peut pas arriver si vous tournoyez.
Bon.
Maintenant, vous allez vous congeler et commencer. Vous n'allez pas nous assigner des couloirs ?
S'enquit un garçon.
Non, je ne vais rien faire de tel. Je veux que vous vous heurtiez les uns les autres pour apprendre quoi faire dans ce cas, quelles que soient les circonstances. Quand nous nous exercerons aux formations, par contre, je vous demanderai souvent de le faire intentionnellement. Go !
Ils s'exécutèrent dans la seconde. Ender fut le dernier à sortir après l'entraînement, car il était resté aider les plus lents à améliorer leur technique. Ils avaient eu de bons professeurs, mais les soldats inexpérimentés, tout droit issus de leur groupe de bleus, se retrouvaient complètement perdus quand il leur fallait faire deux ou trois choses en même temps.
Avoir les jambes congelées ne les empêchait pas d'effectuer des culbutes. Ils n'avaient aucun mal à manœuvrer en apesanteur, mais s'élancer d'un côté, tirer dans un autre, tourner deux fois sur eux-mêmes, rebondir contre une paroi en faisant un roulé-boulet, se remettre à tirer aussitôt dans la direction convenable, tout cela les dépassait. Des exercices, encore et encore. Ender n'allait rien pouvoir faire d'autre avec eux pendant quelque temps. C'était bien joli de développer des stratégies et des formations, mais ça ne servait à rien si les soldats ne savaient pas se débrouiller au combat. C'était maintenant qu'il avait besoin d'une armée performante. On l'avait nommé commandant de manière prématurée, et voilà que les professeurs modifiaient les règles pour l'empêcher de procéder à des échanges, ce qui le privait de vétérans de premier ordre. Rien ne lui garantissait qu'on allait lui laisser les 3 mois d'usage pour former une armée avant de la lancer dans la bataille. Au moins, le soir, il pourrait compter sur Allais et Chen pour l'aider à entraîner ses nouvelles troupes. Il se trouvait encore dans le couloir d'accès à la salle de combat quand il tomba face à face avec le petit Bin. Celui-ci semblait en colère. Ender ne voulait pas de problème en ce moment.
« Lui, Bin. »«
Lui, Ender. » Silence.
« Commandant, »
murmura le jeune Wiggin. « Je sais ce que t'es en train de faire, Ender. Commandant. Et je t'avertis. »«
De quoi ?»«
Je peux devenir ton meilleur élément. Mais ne te moque pas de moi. »«
Sinon ?»«
Sinon je serai ton pire élément. C'est l'un ou l'autre. »«
Et qu'est-ce que tu veux ?» De l'amour et des baisers ?
Ender commençait à s'énerver. Bin ne parut pas s'en inquiéter.
« Je veux une cohorte. »
Ender revint sur ses pas et le regarda droit dans les yeux.
« Pourquoi devrais-je te donner une cohorte ?
Parce que je saurais quoi en faire. »«
Ce n'est pas sorcier de le savoir, » fit Ender.
« Ce qu'il est plus, c'est de l'amener à faire ce que tu veux. » Pourquoi le moindre soldat voudrait-il suivre un moustique comme toi ?
C'est comme ça qu'on avait l'habitude de t'appeler, d'après ce que j'ai entendu dire.
Et il paraît que Panzo Madrid le fait toujours.
Je t'ai posé une question, soldat.
Je gagnerai leur respect si tu t'interposes pas. Ender sourit.
Je suis justement en train de t'y aider.
Tu parles.
Personne ne te remarquerait. Sauf pour avoir pitié de toi. Mais j'ai fait en sorte que tout le monde te remarque aujourd'hui. Ils vont surveiller le moindre de tes mouvements désormais. Tout ce que tu as à faire pour gagner leur respect, c'est d'être parfait à partir de maintenant.
Je n'ai donc même pas une chance d'apprendre avant d'être jugé.
Pauvre gosse. On a été injuste avec lui.
Ender repoussa doucement Bin contre le mur.
Je vais te dire comment obtenir une cohorte. Donne-moi des preuves de ta valeur. Prouve-moi que tu sais mener d'autres soldats. Ensuite, donne-moi la preuve que quelqu'un est prêt à te suivre au combat. Alors, tu auras ta cohorte. Mais certainement pas avant.
Bin sourit.
Ça me va. Si tu fonctionnes vraiment comme ça, je serai chef de cohorte dans 1 mois.
Ender le saisit par le devant de son uniforme et le poussa contre le mur.
« Quand je dis que je travaille d'une certaine façon, Bin, c'est la façon dont je travaille. »
Bin se contenta de sourire. Ender le relâcha et partit. Une fois dans sa chambre, il s'allongea sur son lit et se mit à trembler.
« Qu'est-ce qui m'arrive ? Ma première séance d'entraînement et je persécute déjà les gens comme Bonzo le faisait. Et Peter ? Je les bouscule ? Je m'en prends à un pauvre gosse pour que les autres aient quelqu'un à détester. Écœurant. Tout ce que je peux haïr chez un commandant, je le fais à mon tour. Est-ce qu'une quelconque loi naturelle vous fait inévitablement devenir le clone de votre premier commandant ? Autant abandonner tout de suite si c'est le cas.
Encore et encore, il passait mentalement en revue les choses qu'il avait dites et faites lors du premier entraînement de son armée. Pourquoi ne pouvait-il pas parler comme il le faisait toujours, pendant ses sessions du soir ? Pas d'autorité sans excellence. Ne jamais donner d'ordre, se contenter de faire des suggestions. Mais Ça ne marcherait pas. Pas avec une armée. Son groupe informel n'avait pas à apprendre à agir de concert. Rien ne les forçait à développer un esprit de corps. Ils n'avaient pas besoin d'apprendre à rester unis et à se faire confiance au combat, à réagir instantanément aux injonctions. Et il y avait l'autre extrême. Ils pouvaient se montrer aussi négligents, aussi incompétents que Ray le Nez, s'ils le voulaient. Commettre des erreurs stupides malgré toute sa bonne volonté. Ils devaient faire régner la discipline, et cela supposait d'exiger et d'obtenir une prompte obéissance résolue. Il lui fallait une armée efficiente, et cela signifiait entraîner encore et encore ses soldats, quand bien même ils pensaient avoir maîtrisé une technique, jusqu'à ce qu'elle devienne comme une seconde nature pour eux, et qu'ils n'aient plus besoin d'y réfléchir. Mais c'était quoi, cette histoire avec Bean? Pourquoi Enders s'en était-il pris au plus petit, au plus faible, et sans doute au plus brillant de tous? Pourquoi avait-il fait subir à Bean ce que lui-même avait subi de la part de commandants qu'il méprisait? Il se rappela alors que ça n'avait pas débuté avec ses commandants. Avant même que Ray et Banzo ne le traitent avec dédain, il se trouvait déjà isolé au sein de son groupe de bleus. Et ce n'était pas non plus Bernard qui avait lancé le mouvement. C'était Graff. Ainsi que les professeurs. Et ça n'avait rien d'un accident. Ender le comprenait enfin. C'était une stratégie. Graff avait délibérément fait en sorte de le séparer des autres, de rendre impossible toute proximité avec eux. Et il commençait à en soupçonner les raisons sous-jacentes. Ce n'était pas pour unifier le reste du groupe. C'était de fait un facteur de division. Graff l'avait isolé pour l'obliger à se battre, pour le forcer à prouver non pas ses compétences, mais son incontestable supériorité sur quiconque. C'était le seul moyen de gagner respect et amitié. Ça avait fait de lui un meilleur soldat qu'il ne l'aurait été autrement. Ça l'avait aussi rendu solitaire, craintif, colérique, méfiant. Des traits de caractère qui, peut-être, avaient également contribué à l'améliorer. « C'est exactement ce que je fais avec toi, Bean. Je te maltraite pour faire de toi un meilleur soldat à tous les égards, pour aiguiser ton intelligence, pour te forcer à te surpasser, pour te maintenir en déséquilibre, toujours incertain de ce qui va te tomber dessus ensuite, de manière à ce que tu te tiennes toujours prêt à tout, prêt à improviser, déterminé à vaincre quoi qu'il en coûte. Et je te rends malheureux. C'est pour ça qu'ils t'ont collé dans mon armée, Bean, pour que tu deviennes comme moi. Pour qu'avec le temps, tu finisses par ressembler au colonel Graff. Et moi, je suis censé finir comme Graff? Gras, amer, insensible, manipulant les vies de petits garçons pour produire des généraux et amiraux parés à commander la flotte pour défendre la patrie. Tu profites pleinement de ta position de marionnettiste, jusqu'à obtenir un soldat meilleur que qui que ce soit d'autre. Mais c'est hors de question. Ça gâche la symétrie. Tu dois le faire rentrer dans le rang, le briser, l'isoler, lui en faire baver jusqu'à ce qu'il en rabatte. Eh bien, ce qui est fait, Bean. Mais je vais garder l'œil sur toi avec plus de compassion que tu ne l'imagineras. Et le moment venu, tu découvriras en moi un ami et en toi le soldat que tu voulais devenir. Ender ne se rendit pas en classe cet après-midi-là. Allongé sur sa couchette, il mit par écrit ses impressions sur chaque garçon de son armée, tout ce qu'il avait remarqué à leur propos, ce qui nécessitait davantage de travail. À l'entraînement, il parlerait avec Allais pour trouver un moyen d'enseigner à de petits groupes les choses qu'il devait savoir. Au moins n'aurait-il pas à affronter ça seul. Mais lorsqu'Ender se rendit à la salle de combat, ce soir-là, alors que la plupart des autres étaient encore en train de dîner, ce fut pour tomber sur le major Anderson, qui, de toute évidence, l'attendait. « Il y a eu un changement de règlement, Ender. »«
À partir de maintenant, seuls les membres d'une même armée pourront travailler ensemble en salle de combat pendant leur temps libre. Ce qui implique que les salles sont disponibles uniquement selon un programme préétabli. Après ce soir, ton tour reviendra dans 4 jours.
Personne d'autre n'organise d'entraînement supplémentaire ?
Ils le font à présent, Ender. Et ils refusent que leurs soldats s'entraînent avec toi, maintenant que tu commandes une autre armée. Tu ne devrais pas avoir de mal à le comprendre. Ils vont conduire leurs propres entraînements.
J'ai toujours été dans une autre armée qu'eux. Ça ne les empêchait pas de m'envoyer leurs soldats.
Tu n'étais pas commandant à ce moment-là.
Vous m'avez donné une armée totalement inexpérimentée, Major.
Tu as pas mal de vétérans.
Ils ne sont bons à rien.
Personne n'en arrive là sans un minimum d'intelligence, Ender. Rends les meilleurs.
J'avais besoin d'aller et de chaînes pour...
Il est temps que tu grandisses, Ender. Que tu agisses par tes propres moyens, tu n'as pas besoin que les autres te tiennent la main. Tu es un commandant à présent. Comporte-toi comme tel.
Ender passa devant Anderson pour se rendre en salle de combat. Puis il s'arrêta et se retourna pour lui poser une question.
Maintenant que les entraînements du soir suivent un planning précis, est-ce que je peux espérer pouvoir utiliser le crochet ?
Anderson a-t-il presque souri ?
Non, aucune chance. Nous verrons, fit l'officier.
Ender lui tourna le dos et pénétra dans la salle de combat. Son armée ne tarda pas à arriver, sans personne d'autre. Soit Anderson traînait dans le coin pour intercepter tous ceux qui se présentaient, soit l'information selon laquelle les séances informelles d'Ender étaient supprimées avait déjà fait le tour de l'école. Ce fut un bon entraînement très productif, mais Ender était fatigué quand il prit fin. Et seul. Il restait une demi-heure avant l'extinction des feux. Le cadet des Wiggins ne pouvait pas se rendre dans le dortoir de son armée. Il avait depuis longtemps compris que les meilleurs commandants demeuraient à l'écart, à moins d'avoir une raison valable de faire autrement. Il fallait laisser aux garçons la possibilité d'être tranquilles, au repos, sans personne pour les écouter et les juger à la façon dont ils parlaient, agissaient, pensaient. Il alla donc faire un tour dans la salle de jeu, où quelques gosses employaient la dernière demi-heure qui les séparait du couvre-feu à fixer des paris ou tenter de battre les scores antérieurs. Aucun des jeux ne trouvait grâce à ses yeux, mais il se força quand même à jouer, un programme facile destiné aux bleus. Dans sa lassitude, il en ignora les objectifs et utilisa le petit personnage, un ours, pour explorer le paysage animé qui l'entourait.
« Tu ne gagneras jamais de cette façon ?»
Ender sourit.
« Tu m'as manqué à l'entraînement, allez. »
« J'y étais ?» Mais ils ont séparé ton armée du reste des troupes. Tu as pris du galon, apparemment. Tu ne peux plus jouer avec les enfants.
Tu fais une coudée de plus que moi.
Une coudée? Dieu t'a demandé de construire un bateau, quoi? À moins que tu ne sois d'humeur archaïque?
Non. Plutôt labyrinthique. Secrète. Subtile. Circonvolutionnée. Tu me manques déjà, espèce de chien circoncis.
Personne ne t'a prévenu? Nous sommes ennemis à présent. La prochaine fois que je te croiserai au combat, je te fouetterai le cul.
Il plaisantait, comme toujours. Mais cela dissimulait par trop de vérité désormais. À présent, quand Ender entendait aller lui parler comme si tout était motif à rire, il ressentait la souffrance d'avoir perdu son ami, et aussi celle, pire encore, de se demander si aller s'en moquer autant qu'il le laissait paraître.
« Tu peux toujours essayer, » dit Ender. « Je t'ai appris tout ce que tu sais.
Mais je ne t'ai pas appris tout ce que je sais. » « Je savais bien que t'en gardais sous le coude, Ender. »
Un silence. L'ours d'Ender était en train de grimper dans un arbre à l'écran. Il avait des ennuis.
« Ce n'est pas vrai, allez. Je ne gardais rien pour moi. »
« Je sais, » fit Allée. « Moi non plus. »«
Salam, Allée. »«
Hélas, ça n'arrivera pas. »«
Quoi donc ?»«
La paix, c'est la signification de salam,
Que la paix soit sur toi. » Ces mots éveillèrent un écho dans la mémoire d'Ender. Sa mère lui faisant la lecture à voix basse quand il était tout petit. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Ender s'était imaginé sa génitrice en train de transpercer Peter le Terrible avec une rapière couverte de sang, et ses paroles étaient restées gravées dans son esprit. L'ours mourut pendant qu'il se faisait ses réflexions, d'une mort charmante, avec une jolie musique pour l'accompagner. Ender se retourna. Allais était déjà parti. C'était comme si un morceau de lui-même lui avait été arraché. Un été intérieur qui soutenait son courage et sa confiance. Avec Allais, à un degré impossible même avec Chêne, Ender en était arrivé à éprouver un accord si puissant que le mot « nous » lui venait beaucoup plus facilement à la bouche que « je ». Mais Allais avait laissé quelque chose derrière lui. Alors qu'il sommeillait sur son lit, Ender pouvait sentir sur sa joue les lèvres de son ami pendant que celui-ci murmurait le mot « paix ». Le baiser, le mot, la paix, demeurait obstinément en lui. « Je suis ce dont je me souviens, et le souvenir de mon amitié pour aller est si intense que rien de ce qu'ils feront ne pourra me l'arracher. Comme celui de Valentine, le plus puissant d'entre tous. » Le lendemain, quand il croisa Allais dans un couloir, tous deux se saluèrent, se serrèrent la main, parlèrent, mais ils savaient qu'un mur les séparait à présent. Peut-être une brèche pourrait-elle s'y ouvrir à l'avenir, mais dans l'immédiat, les seuls liens véritables qui demeuraient entre eux étaient les racines qui avaient déjà poussé sous ce rempart, lentement, profondément, là où rien ne pouvait venir les briser. Le plus terrible, cependant, était la peur de ne jamais plus voir ce mur s'écarter, quand son fort intérieur allait se réjouisse de cette séparation, qu'il soit prêt à devenir l'ennemi d'Ender. Car il devait être infiniment distant à présent qu'il ne pouvait plus faire qu'un. Ce qui avait été une certitude inébranlable se faisait à présent fragile, sans substance. Dès l'instant où nous ne sommes plus ensemble, Allais se transforme en inconnu. Il mène une existence distincte de la mienne. Et ça signifie que, quand je le verrai, nous ne nous connaîtrons pas vraiment. Cela le rendit triste, mais Ender ne pleura pas. Il en avait fini avec les larmes. Depuis le jour où ils avaient fait de Valentine une inconnue, depuis le jour où ils s'étaient servis d'elle pour agir sur lui, ils avaient perdu à jamais toute capacité à lui faire suffisamment mal pour le faire pleurer. Ender en était certain. Et cette colère le convainquit qu'il était assez fort pour les vaincre. Les professeurs, ses ennemis.